Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Pour celle d'aujourd'hui, c'est un résumé complètement réécrit des deux premières saisons du Voyage de Lilou. Ma saga de l'été, mon histoire au long cours, mon bébé adoré et qui se veut une histoire complète et attrayante. Je l'espère, hein, ça, c'est à vous de me le dire. Enfin bref. Attention, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. C'est le moment idéal pour une rétrospective des deux premières saisons des Aventures de Lilou. Si vous n'avez pas encore écouté cette saga de l'été, je vous conseille de vous arrêter ici et d'aller écouter le premier épisode de la saison 1, que vous trouverez dans la description de l'épisode un peu plus bas. C'est toujours mieux d'avoir toute l'histoire avant de passer à la suite et vous êtes une bande de petits vénards de pouvoir binge-listener. Alors oui, j'utilise des néologismes si je veux d'abord, ces deux premières saisons, sans devoir subir l'année d'attente entre les deux, voire les 2 ans pour ceux qui ont commencé la saison 1 quand elle est sortie, et d'enquiller sur la 3e saison tous les mercredis à partir du 7 juillet, à raison d'un épisode par semaine. Puis vous serez plus à même pour me faire des commentaires du type « Hé, Loli, t'as oublié cet élément là de la première saison dans la suite de ton histoire ?» Ce à quoi je répondrai « Ah ah, mais non, pas du tout, Taku est bien présent dans la suite !» Voilà, vous êtes prêts? Vous êtes installés confortablement? Alors c'est parti. Magnéto, Serge.
Précédemment, dans le voyage de Lilou.
Previously, in le voyage de Lilou.
Dans la saison 1. Lilou est une petite fille blonde aux yeux clairs, volontaire, pleine d'énergie et un peu trop remuante, au dire de certains adultes, qui n'ont pas compris ou oublié que les enfants, ce n'étaient pas des bibelots, mais bien des petits êtres maléfiques, des petits êtres pleins de vie. Oui, c'est ça, plein de vie. Un jour, désobéissant à ses parents, elle découvre une porte dérobée dans le mur de sa cave, ouvrant sur une énorme caverne et un réseau de grottes souterraines, se terminant par un ponton et une rivière tumultueuse. Une fois embarquée, elle avait terminé sa course au milieu d'un lac dont on ne voyait pas les bords, sans rame et avec sa dernière torche qui s'éteignait. Dans une nuit d'encre, elle avait aperçu le fond luisant du lac et plongé en retenant sa respiration, avant de se rendre compte que par on ne savait quelle magie, il lui était possible de respirer sous l'eau. Lors de sa plongée, elle avait découvert la faune et la flore locale, méduses lumineuses énormes, algues aussi grandes que des arbres, avant de toucher terre et de découvrir ce monde nouveau qui s'offrait à elle. Elle avait arpenté un charmant village dans lequel il n'y avait pas âme qui vive, et fait la connaissance du seul être vivant présent en ces lieux, Barbot, un magnifique poisson-chat, au pelage bleuté avec une lune d'argent sur la poitrine et des yeux argentés. Avant d'arriver devant un château blanc, avec un parc magnifique tout aussi vide que le village. Elle s'y était installée avec son compagnon animal, y avait passé de chouettes journées avant de découvrir les 2 autres habitants du château, un prince et son chien. Enfin, pas tout à fait. Un prince victime d'une malédiction, humain la nuit, un monstre le jour. Ils avaient appris à se connaître et étaient devenus amis, selon les termes fixés par l'anathème. Elle ne devait pas le voir en journée, sous peine de le voir disparaître à jamais. Quand, par un malheureux concours de circonstances, la dernière nuit, elle l'avait entreaperçu, ils avaient disparu chacun de leur côté. Elle, de retour dans sa cave, lui, emporté au loin. Impuissant, il lui avait donné une petite boîte en bois flotté, fermée d'un ruban vert, et l'avait supplié de se rappeler de lui. Et le temps était passé. Elle, grandissant avec Barbot, désormais un chat adulte, lui, amnésique, dans un étrange château, gris aux tuiles rouges, sur un monde à 2 lunes, veillé par une jeune femme aux cheveux argentés, à la peau dorée et aux yeux verrons. Une jeune femme dont les intentions n'étaient pas claires. Pour clôturer cette saison, le prince avait envoyé un dernier message à Lilou, espérant qu'elle le capte. Dans la saison 2, Lilou a grandi. Ado, elle a tout oublié de ses premières aventures et de son mystérieux ami. Avant de retomber sur la petite boîte donnée par le prince et de se retrouver propulsée dans un autre monde. Arwen, sa petite sœur, l'a récupérée. Et tandis que sa famille l'oublie peu à peu, Lilou, elle découvre cette mystérieuse planète en compagnie de Barbot et de Taku, le chien-loup du prince. une aventure qu'Arwen peut suivre de loin en loin grâce à la boîte restée dans la chambre après le départ de Lilo. Mogiane, quant à elle, surveille la progression de l'ado, redevenue une petite fille, et entoure le prince des attentions. Régulièrement, elle descend dans une pièce sombre, dans les tréfonds de son château aux tuiles rouges, bâti sur une falaise à l'aplomb de la mer. Une pièce dans laquelle se trouve un petit coffret contenant une pièce de tissu. Plus bas encore, dans les entrailles de la falaise, derrière un passage secret, se trouve un miroir d'eau, lui révélant tout ce qu'il se passe sur l'île. Lors de sa quête, Lilou découvre au fond d'un lac une bague en argent, avec une pierre verte. Autour du château, et juste autour de lui, un brouillard épais, dense, se lève. Un brouillard qui trouble le prince, mais pas Mogiane, satisfaite d'être ainsi cachée. À l'autre bout de l'île, courageusement, Lilou avance, un pas après l'autre, et si le temps passe et que les souvenirs de sa vie d'avant dans le monde réel s'estompent, elle se souvient quand même d'une petite fille aux cheveux bruns. Et elle avance, quittant le paysage verdoyant de l'île pour entamer l'escalade des montagnes. Elle grimpe pendant longtemps, très longtemps. Et si la pluie se change en neige, heureusement pour elle, elle est débrouillarde. Les pins sont dotés d'aiguilles plumes bien chaudes, qu'elle utilise pour se faire des vêtements fourrés et ne pas souffrir du froid. Elle croise aussi des sources chaudes, bien pratiques pour se délasser, prendre un bain et avoir un certain confort. Et ses animaux, toujours, lui disent ce qui est bon à manger, ou ce qu'elle doit laisser de côté. Sans compter que Taku, le chien loup du prince, chasse pour lui rapporter de la viande et même parfois du poisson. Et si elle dort bien, protégée par ses deux gardiens, parfois une voix se glisse dans ses rêves pour lui souffler des conseils. Arrivée enfin au sommet, Lilou se retrouve face à un lac immense, qu'elle entreprend de traverser, toujours avec ses animaux. Ensemble, ils pêchent, dorment, et Lilou rame. Elle rame, elle rame, elle rame. Pendant cette traversée, quand elle regarde le fond du lac, elle se rappelle de choses qui flottent dans son esprit, un peu comme des rêves. Un château blanc, de grandes algues, des rires d'enfants. Et de temps en temps, la voix d'une petite fille qui crie son nom et qui lui dit que elle se souvient d'elle, elle se souvient de Lilou. Et puis la tempête se lève sur le lac. Lilou est ballottée de tous côtés, accrochée à sa barque, et à nouveau, les souvenirs affluent. Finalement, elle se retrouve projetée à l'eau, et dans le fond de ce lac récupère un collier d'argent, enchâssé d'une pierre bleue. Elle parvient à remonter sur la barque avec l'aide de Taku et de Barbotte, profondément vexée de ce séjour forcé dans de l'eau froide. Épuisée et trempée, elle s'endort, tandis que ses animaux la recouvrent, la réchauffent. Quand elle se réveille, elle est immobile sur le lac, et la brume qui était au loin semble se rapprocher de plus en plus, au fur et à mesure qu'elle enfonce ses rames dans l'eau. Plus il se rapproche, au plus le brouillard est dense et les sons étouffés. Quand enfin, le fond de la barque racle le sol, elle n'entend que le silence et ne voit que le blanc de la brume autour d'elle. Mais un pas après l'autre, elle avance. Pendant ce temps, dans le château, le prince en découvre un peu plus sur Mogiane, via un petit carnet, une sorte de journal intime, qu'il a trouvé dans la bibliothèque. Tandis que dans ses cauchemars les plus noirs, la femme aux cheveux argentés se souvient de sa presque mort par suicide et de la malédiction qui lui a été imposée, ainsi que de la façon de s'en défaire. Lilou avance dans la brume, Barbotte blottie dans son cou et la main posée sur l'épaule de Taku. Prudemment, dans ce blanc où elle ne voit rien, ne sent rien sous ses pieds et n'entend qu'un silence surnaturel, elle avance. Dans un froid de plus en plus perçant, sa pensée force. Quand elle trébuche et que le chaton tombe de son épaule, elle le cherche partout en hurlant son nom, directement avalé par la brume. Ses hurlements et les jappements silencieux de Taku la rendent plus que seule au monde. Et toujours ce froid qui s'infiltre au plus profond de ses os. Les larmes coulent le long de ses yeux, gèlent sur ses cils. Elle perd courage, se laisse tomber par terre et commence à glisser vers le sommeil de la mort. Une petite voix venue d'une autre dimension l'appelle de toutes ses forces. Sa petite sœur, Arwen, maintenant grande, hurle dans la boîte en bois flotté abandonnée par Lilou lors de son départ magique. Elle hurle tant et plus qu'elle oblige Lilou à se redresser, à se battre contre le froid et la brume et à crier son prénom. Sitôt crié, le voile se déchire et tous les souvenirs de ses aventures, de sa vie dans le château, de son ami prince, de ses parents et de sa sœur lui reviennent. Elle retire les larmes gelées de ses yeux, les tient fortement au creux de sa main. Elles deviennent boucles d'oreilles. Et à chaque pas que Lilou fait, la brume se déchire de plus en plus tandis que Lilou, elle, grandit. Elle redevient l'ado qu'elle était avant son départ sur cet îlot de lune et barbote un chat adulte puissant. Elle range les boucles d'oreilles dans sa poche et y trouve un ruban vert, celui qui fermait le coffret offert par le prince. Ils sortent enfin, ado, chien et chat de la brume. Le soleil couchant met des reflets dorés dans le ciel et les nuages sont d'une belle couleur, rouge-orangé. Ils sont poussés lentement par un vent paresseux. Devant elle, un chemin en pente douce traverse plaines et forêts. Et là-bas, tout au loin, presque sur l'horizon, accroché à flanc de falaise, on devine un château. Un château gris aux tuiles rouges, parfois caché par les nuages qui passent devant. Le cœur de Lilou bat fort dans sa poitrine. Allons-y, on y est presque, c'est le dernier effort. Sachez déjà que j'ai énormément souffert pour refaire ce truc parce qu'il y a eu plein de bugs et tout, et c'est bien parce que je vous aime et que j'espère que vous allez l'écouter que je l'ai fait. Sinon, donc, c'est rendez-vous le 7 juillet pour le début de la saison 3 du Voyage de Lilou qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager et mettre des étoiles sur les applications de podcast. Enfin, en bref, juste dites-moi que vous existez et que vous m'écoutez, quoi. Voilà, merci, au revoir, bisous.